Je me réveille avec une sensation de gueule de bois, l'ivresse en moins. Si je me souviens bien, il n'y a eu qu'une seule et unique bière hier soir. Et elle a mal fini. June est vivante. J'ai un fils. Ces mots martèlent mon crâne, comme une rengaine infatigable. Comme un marteau-piqueur qui creuse dans la rue, bien trop tôt le matin. Besoin que ça s'arrête. J'ai toujours dit que je n'aurais jamais d'enfant. Que je n'en voulais pas dans ce monde-là. Jamais de la vie. C'était aussi simple que ça. Je m'extirpe de mon lit, m'assois au bord en frottant mes cheveux qui me font mal, puis je pose les yeux sur ce loft que j'habite depuis un peu plus d'un an. C'est le premier achat d'adulte que j'ai fait. La première fois que je dépensais un bout de l'héritage de mon père, touché à ma majorité. Il fallait que ce soit à la hauteur. Cet endroit, c'est tout ce que j'aime. Tout ce dont j'ai toujours rêvé. De l'espace. Presque pas de mur. Des fenêtres partout, plus grandes que moi, qui donnent l'impression de vivre dehors. Une piscine pour moi tout seul. Et l'océan juste là, tout droit, presque tout autour. C'est la dernière chose que je vois chaque soir, la première qui m'accueille chaque matin. Celle qui me fait le plus de bien. J'ouvre toutes les baies vitrées pour faire entrer l'air déjà tiède du mois d'août et le son familier d'Atlantic Boulevard. Je n'ai pas connu mon père, mais il m'a offert ça. Ce sanctuaire parfait, ce refuge où je me sens chez moi. Jamais enfermé, jamais étouffé, toujours libre d'aller courir ou nager. Jamais seul non plus, avec la vie qui résonne dans la rue, les gens qui bossent et ceux qui flânent, le bruit des vagues et celui des mômes sur la plage. Moi, qu'est-ce que j'ai à offrir à mon fils ? À ce fils que je ne connais même pas, qui ignore tout de moi. Je déplie le petit escalier métallique planqué dans le plafond pour grimper sur le toit terrasse du loft. Prendre de la hauteur. Je m'appuie sur le garde-corps, regarde l'océan droit dans les yeux et lui demande « Alors, est-ce que tu vas réussir à me noyer cette fois ?» Je baisse les yeux sur le tatouage de mon avant-bras. Les vagues que j'ai voulu hautes, violentes, du noir le plus foncé qui soit. Le bateau qui dérive, les voiles gonflées d'orage, le mât brisé et la mort assurée. Pourtant, j'ai survécu à cette tempête-là. Au départ de June, à son absence, à son silence, à cette moitié de cœur arraché partie avec elle. Est-ce que je vais survivre à sa présence à nouveau? À celle de ce fils inconnu? À ces morceaux de cœur qu'on essaie de me recoller sans rien m'avoir demandé? Putain, qu'est-ce que t'as encore fait, June Castillo? Je m'enfonce les poings dans les paumes pour chasser son visage de poupée, sa tignasse brune toujours emmêlée, ses prunelles sombres et pourtant toujours éclairées de feu, sa peau mate recouverte d'égratignures, de bleu, de terre et de poussière, ses fringues toujours un peu trop grandes sur son corps menu, un peu usé parce qu'elle se fout de son apparence, ses muscles dessinés, ses bras solides, ses jambes fuselées d'avoir passé son enfance à courir, à grimper, à fuir. Et puis la gamine s'efface pour laisser place à l'adolescente rebelle qui a hanté mes nuits. Les cheveux qu'elle s'est teints en rose à une époque. Son corps de femme qui me rendait dingue. Ses lèvres pulpeuses qui me défiaient sans cesse, que j'aimais tant faire taire. Cette June qui aimait m'attirer autant que me repousser. Je la repousse aussi. Je la chasse, mais June reste comme toujours. Comme chaque jour depuis 3 ans. Bordel, à quoi je joue? Pourquoi je la laisse revenir? Qu'est-ce que je vais faire? À qui tu parles, là-haut? La voix d'Athéna me fait sursauter. Merde, notre petit déjeuner. Descends de là, tu sais que j'ai le vertige sur ce toit. Et je déteste cet escalier de malheur. Le temps que je descende ces marches raides, les différences entre les deux femmes me frappent. À chaque pied sur le métal, un nouveau coup au cœur. Athéna Sanford et sa peau immaculée, claire et rosée. Ses yeux d'un bleu cristallin, dans lesquels on peut tout lire. Sa cascade de cheveux blonds parfaitement domptés qui lui descendent jusqu'aux fesses. Sa petite robe blanche près du corps, sûrement signée d'un grand créateur. Ses jambes fines et ses bras délicats. Son prénom de déesse et son corps qui va avec. Son nom Chicos qui évoque une riche famille du coin, des notables de Key West qui ont fait fortune dans le champagne et le vin. June et Athéna ne pourraient pas être plus opposées. À l'exception peut-être de ce cran, cette audace, cette volonté tenace pour obtenir ce qu'elle désire. « T'as une sale tête? Mauvaise nuit ?» me demande-t-elle en ébouriffant mes cheveux. J'esquive en bougonnant. Elle sait pourtant que je n'aime pas ce genre de geste maternant. D'habitude, elle respecte mon espace vital. « Bacon et œufs brouillés ? Ou on passe tout de suite au dessert ?» Elle me propose ça dans un sourire que je connais bien. Et ses mains glissent sur mon torse nu, et son bassin se presse contre le mien, et sa langue joueuse s'insinue dans ma bouche qui grogne, mais de plaisir maintenant. Je sens mon corps se réveiller, et ma colère contre June avec. J'avais tout réparé, tout retrouvé. Une fille qui me fait du bien, et rien d'autre que du bien. Nos familles qui s'entendent, des études qui me plaisent et qui me feront peut-être changer le monde, comme j'en rêvais gamin. Un avenir qui me paraissait simple, direct, sans drame. Après une enfance merdique et une adolescence chaotique, je pensais y avoir droit.
« Je suis en train de te mordiller le lobe de l'oreille et tu ne réagis pas. »
Monsieur Surtel sans méchanceté.
« Tu veux que je m'en aille ?»«
Non, reste, je... »«
Tu es perdu dans tes pensées et tu ne veux pas en parler, je sais. »«
Tu me connais. » Je lui souris à moitié.
« Et je t'aime comme tu es. »
Je la regarde droit dans les yeux et je me demande une seconde si je dois lui dire la vérité. Celle que je viens tout juste d'apprendre, que je n'ai même pas eu le temps de digérer. Mais Athéna s'éloigne déjà en direction de la cuisine ouverte pour déballer le petit déjeuner tout prêt qu'elle a apporté. J'en profite pour aller prendre une douche rapide, enfiler un jean et un t-shirt noir, et je me maudis de la traiter comme ça. Tout me va chez elle. Elle est belle, maligne, elle me comprend et me respecte, elle ne m'en demande jamais trop. Comme tous les gens foncièrement heureux, elle n'a rien à cacher, rien à prouver, rien à envier aux autres. Elle ne me veut pas de mal, elle ne m'en fera jamais. On est sexuellement compatibles. Et sentimentalement, à égalité. C'est peut-être dégueulasse de comparer, mais ça compte. Elle est amoureuse de moi, mais je ne suis pas toute sa vie. L'inverse est encore plus vrai. Je ne l'aimerai jamais comme j'ai aimé June, je le sais. Mais Athéna ne me brisera pas. C'est à peu près tout ce que je lui demande.
Tu n'as pas besoin de mettre tous ces trucs dans des assiettes comme si tu venais de passer 2 heures en cuisine,
plaisantais-je en revenant.
« Mince, je comptais me débarrasser de toutes ces boîtes en plastique avant que tu me dises qu'on pollue l'océan pour les 500 années à venir. »
« C'est exactement ce qu'on est en train de faire, mais je vais être obligé de te pardonner, vu que tu le fais tout le temps pour moi. »
Je l'enlace par derrière et l'embrasse dans le cou. Elle se laisse aller contre moi en riant. « Tu es trop aimable, Harrison Quinn. »
« Ce n'est pas une qualité qu'on me reconnaît très souvent, » marmonnais-je, cynique.
« Ça ira mieux après le dessert. »
glousse-t-elle en se retournant dans mes bras.
Athéna m'embrasse à nouveau langoureusement, mais la sonnerie de mon téléphone nous coupe en plein élan.
Désolé, il faut que j'aille voir qui c'est.
Et pendant que je cours jusqu'à la table basse du salon, June envahit mes pensées. Et si c'était encore un de ses appels? Elle m'a téléphoné 3 fois en 3 ans. Toujours à la date anniversaire de son départ. Toujours très tard le soir, comme si elle avait mieux à faire dans la journée. Les 3 fois, j'ai laissé sonner. Avec les doigts qui fourmillaient, qui me démangeaient, avec les poings serrés pour m'empêcher de décrocher. Les 3 fois, j'ai effacé ces messages sans même les écouter. Qu'est-ce qui se serait passé si j'avais été moins fier, moins fermé, si j'avais su la vérité plus tôt, affronté la réalité plus vite? Ça me tue de ne pas le savoir, de devoir tout imaginer. Des années perdues, voilà ma grande spécialité. Des années âpres dans le désert du Nevada, alors que j'étais séquestré par une folle en mal d'enfant. Des années de mensonges, sans enfance ni insouciance. Puis des années à me reconstruire, ici, à Key West, près de mon vrai clan. Quelques mois de répit avec June, à rêver de changer le monde et à y arriver un peu. Puis 3 nouvelles années sans elle, qui m'ont démoli à nouveau. 3 années à me débattre pour sortir la tête de l'eau. Et un autre secret, plus terrible encore. Celui-ci, peut-être que j'aurais préféré ne jamais le savoir. Ne jamais avoir à changer ma vie pour lui. C'est vrai, je n'ai jamais voulu d'enfant. Pourquoi ce serait différent maintenant? Il a déjà vécu 2 ans et demi sans moi, sans père, comme sa mère l'a voulu. Pourquoi ça ne resterait pas comme ça? Moi, j'ai une nouvelle vie. J'ai décidé qu'elle serait simple, heureuse, sans vagues. June n'a pas le droit de m'imposer ce tsunami. Voilà exactement ce que je vais faire. Rien. Suivre mes plans, être heureux avec ma fiancée, laisser June se débrouiller avec son fils et subvenir simplement à leurs besoins, parce qu'il est aussi le mien. Mais ni plus, ni moins. Moins, je serais un connard. Mais plus, je ne m'en sens pas capable. Père, ce n'est pas une vie pour moi. J'ai déjà bien assez de démons comme ça.